France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des villes sous haute tension ce samedi dans Plan large avec Laurence Valin et Bogdan Mureșanu et aussi Entebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan large, en cette quasi-veille du Festival de Cannes et de la Mostra de Venise que nous parviennent les deux films qui nous occupent cette semaine. Deux premiers films très ambitieux et généreux dans leur volonté de faire du cinéma grand public et d'auteur et de s'emparer de questions politiques sans négliger le divertissement et le plaisir du spectateur. Le premier était sur le Lido à la Semaine Internationale de la Critique. Il nous plonge dans un Paris inédit à l'écran, celui du quartier Tamoul de la Chapelle, dans le nord du 10e arrondissement. Qu'on appelle là-bas Little Jaffna. C'est le cadre et le titre du polar explosif et coloré, syncrétique et pop de Laurence Valin, réalisateur et interprète principal de cette histoire de policier infiltré dans un groupe mi-mafieux, mi-terroriste et tiraillé entre deux cultures et autant de loyauté. Il nous en parlera dans un instant. Le second a remporté le grand prix de la section Horizonti et le prix Fipresi de la critique internationale. C'est ce nouvel an qui n'est jamais arrivé. Un conte de Noël en forme de feel-good movie tragicomique et chorale sur les dernières 24 heures d'un régime qu'on croyait indétrônable, celui roumain du pas si futé génie des Carpates, j'ai nommé Nicolae Ceaușescu, le tout via six destins plus ou moins compromis dans ou résistant à la dictature. Nous rejoindrons tout à l'heure son réalisateur Bogdan Mureșanu depuis le festival de Linz en Autriche, à la veille d'élections présidentielles qui pourraient à nouveau faire basculer le pays. En fin d'émission, Entebin tâchera, mission impossible, de donner du sens à la très éclectique filmographie du cinéaste américain Robert Wise, aussi à l'aise dans le musical que dans l'horreur, la science-fiction ou le western. Mais pour l'heure, on met des masques d'éléphant et on brise des noix de coco dans le quartier de la Chapelle. C'est la fête de Ganesh. Bonjour, Laurence Valin.
Bonjour.
Voilà qui donne au premier abord un aspect tout à fait documentaire à votre film, Little Jaffna. Vous tournez en pleine fête de Ganesh, sauf que, évidemment, la fiction intervient bien vite. Il y a une course-poursuite, un fuyard pourchassé à pied par la police, spectaculairement arrêté dans sa course par un colosse au masque d'éléphant et un langage cinématographique qui regarde clairement vers l'Asie. Il y a du ralenti, du double cut, la répétition d'un geste dans le montage. Cette musique joyeuse et tonitruante qu'on entend, on est clairement dans un film indien, sauf qu'on se rend compte qu'autour, eh bien, sont des immeubles haussmanniens. Vous partez du réel pour investir la fiction ou vous partez de la fiction pour investir le réel, Laurence Valin ?
En fait, c'est vrai que je pars vraiment du réel pour insuffler ma fiction à l'intérieur. C'est vrai que pour moi, ce qui était très important, c'était d'un coup de me dire que pour un spectateur occidental, quand il se projette dedans, il se dit, bah, en fait, c'est un film indien. Et petit à petit, il se dit, bah, en fait, pas du tout, c'est des codes que je maîtrise aussi. Et donc, c'est vraiment mélanger vraiment des codes qui sont très différents l'un de l'autre, que ce soit le cinéma sud-indien ou le cinéma occidental.
Alors, cette fête de Ganesh, elle reviendra à la fin du film. Évidemment, on portera un tout autre regard dessus après avoir regardé Little Jaffna. C'était aussi une des ambitions du film.
En fait, moi, ce qui était très important pour moi, c'est que, à travers un film de genre, je mettais en lumière un conflit qui a été très peu médiatisé en France. Donc, c'est le conflit au Sri Lanka qui a opposé les Cingalais aux Tamouls. Et c'est vrai qu'il y a eu, à la fin de la guerre en 2009, il y a eu vraiment 70 000 morts, donc un génocide qui n'a pas été reconnu. Et moi, c'est à travers ce film de genre que j'ai essayé de vouloir mettre cette lumière sur cette communauté qui est très discrète en France et aussi sur ce conflit. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'était de comment on rentre dans cette communauté. Et donc, au début du film, on a l'impression que c'est quelque chose qui est très étrange et on a un peu peur de cette communauté. On se dit, oh là là, il y a, voilà, c'est avec les hommes qui brisent des noix de coco. Il y a tout un truc assez dur dans ces premières séquences. Et petit à petit, quand on découvre cette communauté tout le long du film, à la fin, quand on revient, bah, en fait, on a un côté où on se dit, bah, on connaît mieux ces gens, on connaît mieux cette communauté. Et donc, il y a quelque part, comme le personnage principal, comme une connexion avec cette communauté.
Alors, vous l'avez dit, c'est une communauté qui est très discrète, à Paris notamment. Et comment ça a été vu, le fait que vous en empariez? Est-ce qu'il y a eu la crainte un peu d'en donner une mauvaise image, comme ça avait pu être le cas de la communauté italo-américaine face au film de Scorsese ou de Coppola, avant de se rendre compte, évidemment, pour les italo-américains, que ça les avait rendus complètement mythiques? Quel accueil vous avez eu quand vous avez proposé ce projet, puisque vous avez fait tourner beaucoup de personnes de cette communauté, évidemment?
En fait, je pense que je suis comme Scorsese à l'époque, c'est qu'il y a toute une partie de la communauté qui pense que je vais stigmatiser la communauté, donc elle a peur, elle a des doutes, parce que voilà, c'est quand même un conflit qui est encore, qui est une plaie qui est encore ouverte pour eux, et donc il y a quelque part une peur que les Français se disent que voilà, c'est des gangsters et ils sont comme ça. Et il y a toute une nouvelle génération, c'est-à-dire moi, la génération où on est né ici, on a grandi ici, on manque de représentation. Mmh. Et c'est vrai que pour le moment, en France, la seule représentation qu'on a, c'est celle d'un migrant. À chaque fois que j'ai vu un film français, c'est un migrant que je vois à chaque fois et on doit aider le petit Indien. Et donc là, je me suis dit, ok, j'avais pas envie que ce petit Indien soit aidé, j'avais envie que ce petit Indien soit respecté. Ce petit Indien, on le craint. Et donc c'est vrai que le film de gangster s'y prête. Et c'est vrai que d'un coup, je me suis dit, bon, il y aura la représentation des petits migrants et maintenant celle des gangsters colorés avec moi.
Non, ce qui est très fort.
C'est vrai que...
Oui, allez-y, oui. Continuez.
Non. Et c'est vrai que pour certains, ça peut faire peur, parce que si ce film, ce serait le dernier de la communauté, forcément, ils ont peur parce qu'ils se disent qu'il n'y aura que cette représentation-là. Et pour moi, j'espère que ce film va ouvrir, en tout cas, auprès des jeunes, bah, en se disant que si ce garçon l'a réalisé et l'a fait, bah, en fait, nous aussi, on peut raconter nos histoires, parce qu'il y a encore tellement d'histoires à raconter sur ce conflit et sur cette communauté que je préfère aussi laisser la place aux autres.
Alors, il se trouve complètement par hasard qu'après avoir vu votre film, je me suis retrouvé dans le quartier dans lequel vous l'avez tourné. Et évidemment, on ne le regarde plus du tout de la même façon après avoir vu le film. Ça, c'est la force du cinéma. New York est devenu mythique grâce à ça. Vous vouliez aussi transformer ce regard et faire de ce quartier un pur territoire de cinéma, Lorenz Wallin?
Totalement. En fait, pour moi, c'était aussi ça, c'était d'emmener le spectateur, de me dire, est-ce que quand ils vont passer dans les boutiques là-bas, ils vont se dire, mais est-ce qu'il y a des labyrinthes de tunnels en dessous comme un Indiana Jones? Et moi, c'est vraiment ça aussi, c'est que c'est aussi ça, le cinéma, c'est de pouvoir faire voyager les gens. Et c'est vrai que pour moi, on est à Paris et j'ai l'impression de vous emmener ailleurs. Et c'est ça aussi, c'est de vous montrer en tout cas un Paris qu'on n'a pas l'habitude de regarder.
Alors, il se trouve que ce quartier, c'est celui de Entebbin, qui, figurez-vous, Lorenz Wallin, regardez le tournage de votre film depuis son balcon. Il a vraiment été tourné dans sa rue. Je crois que la production avait même installé des bureaux dans votre immeuble. Entebbin, ça s'est passé comment, ce tournage dans votre quartier?
Bah alors, c'est très étonnant parce que moi, en fait, il y a des tournages tout le temps dans ce quartier. Et parmi les films récents, par exemple, presque tout l'histoire de Souleymane a été tournée dans ce quartier. Mais bon, avec un cadreur à vélo qui suivait le héros, enfin bref. Et un jour, je rentre chez moi. Je dois vous préciser que je ne rentrerai plus jamais chez moi avec le même regard, hein, depuis que j'ai vu ce film. Et je vois une foule énorme. Et la grosse différence d'avec les tournages précédents, c'est que pour une fois, on ne distinguait pas qui était dans le film et qui regardait le tournage. Et donc, je me suis dit, ah, très intéressant. J'ai pris quelques plans volés de mon balcon. Et puis, je me suis aperçu que le quartier était vraiment plus, même plus que le sujet du film, c'était presque un personnage du film. Et je trouve que le sens du décor dans ce film est extraordinaire, puisque bon, il y a des scènes d'action très violentes, comme vous l'avez dit, des poursuites, des bagarres. Et on a l'impression que le cœur du quartier bat en même temps que le film. Donc voilà, ça a failli me traumatiser. Mais finalement, je pense que je suis content parce que maintenant j'appartiens à une mythologie.
Et Laurens Vallin, vous avez vécu ça comment, justement, d'embarquer tout un quartier avec vous ?
Moi, j'ai vécu ça vraiment comme une communion, parce que c'est vrai que pour le moment, on est tellement peu représenté qu'il y a quelque part, je me suis dit, avec ce film, j'avais envie de ramener des nouveaux visages, des nouveaux regards. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas ça, en fait, on se sent pas légitime de faire du cinéma, pas légitime de se dire, ben, on a notre place dans cette industrie. Et donc, pour moi, ça a été une vraie aventure parce que ils sont pas venus en se disant, on va jouer dans un film de Laurens Vallin. J'ai été un peu plus malin que ça. J'ai fait venir une très grande star d'Inde, celle qui joue le rôle de Amama, qui est Radhika. Donc, c'est un peu l'équivalent.
Qui est la grand-mère du personnage que vous jouez dans le film.
Exactement. C'est un peu l'équivalent, c'est Isabelle Huppert en France. Donc, les gens venaient pour prendre une photo avec elle, ou pour prendre une photo avec le rôle de Aya, qui est un peu le parrain de la communauté, qui sont des véritables stars en Inde. Et donc, ça a été on a réussi à, on va dire, réunir la communauté autour de ces stars. Et derrière, en fait, ce qui a été génial, c'est que il y a plein de jeunes qui sont venus, c'était leur première fois, et qui ont partagé cette aventure avec moi pour réaliser ce film.
Qu'est-ce qu'on entend là, Laurens Vallin, éclairez-nous.
en fait, c'est vraiment la communauté tamoule qui va au cinéma et qui en fait ne va pas voir un film, va le célébrer. En fait, ils vivent littéralement le film. Et je vous embarque en fait à un moment donné dans une soirée comme ça où c'est une première d'un grand acteur qu'on appelle Vijay. C'est un très très gros, c'est limite un demi-dieu en Inde et on va toute la communauté se rassemble pour aller voir son film. Et donc c'est un peu, je vous embarque là-dedans, le policier va là-dedans et s'engouffre en tout cas avec tous ces jeunes et plonge littéralement dans cette projection quoi.
C'est le grand moment d'intégration de votre personnage d'infiltré. Il vient de subir une sorte de cérémonie initiatique assez violente et cruelle en slip sur le toit d'un immeuble face au parrain et à sa batte de cricket. Effectivement, il chante, il danse, il communie avec tout le monde. Vijay, je crois que c'est un des héros de votre enfance, Laurens Vallin.
C'est vrai qu'en fait, moi, quand j'ai grandi en regardant les films de dimanche, et c'est vrai qu'il y avait Jean-Paul Belmondo et Alain Delon d'un côté où je voulais leur ressembler, mais bon, je n'avais pas vraiment la même couleur de peau. Et de l'autre côté, il y avait le cinéma indien, il y avait cet acteur-là qui s'appelle Vijay, qui était voilà qui était moi quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et à l'âge de 8 ans, je me suis dit que voilà, j'avais envie d'être un acteur comme lui. Et ma grand-mère m'a dit très vite c'est un métier pour les blancs, pas pour toi. Donc j'ai attendu un peu de temps pour le faire quoi.
Et vous avez fait ce film, donc où à la fois vous mettez en scène et vous interprétez le rôle principal, qui est, donc je l'ai dit déjà deux fois, c'est un infiltré. Pourquoi est-ce que vous avez pris cette forme et cette façon de nous faire pénétrer cette communauté avec quelqu'un dont on ne sait jamais trop où il se situe?
En fait, pour moi, ce qui était très important dès le début du film, c'est de parler, par essence, un infiltré, c'est quelqu'un qui est double. Et moi, tout le long du film, à tous les endroits, il y a le double. Que ce soit, par exemple, sur son visage, il a une marque qu'on appelle un vitiligo, il a des traces blanches et il a des traces marron qui font qu'à un moment donné, on se dit, dès le début du film, sans aucun dialogue, on comprend qu'il est à moitié tamoul, à moitié français. Et même dans la langue, là, par rapport aux extraits qu'on a entendus, à chaque fois, on a de la langue tamoul et la langue française qui se mélangent à chaque fois. La religion, pareil. Il y a la religion catholique et la religion hindouiste qui se mélangent aussi. Et en fait, c'est vrai que le double, ça a été quelque chose que j'ai recherché tout le long du film pour essayer d'insuffler ça, de se dire à un moment donné, voilà, qu'est-ce que c'est d'avoir une double culture? Et souvent, on nous dit, il faut choisir entre l'un et l'autre. Et moi, ce que j'ai essayé de faire avec ce film, c'est de dire que je ne vais pas choisir, je vais garder les deux et en faire ma force. Mais donc, du coup, c'est comment il va jongler avec les deux.
Oui, et il ne choisit pas, et vous-même, vous ne choisissez pas entre différentes influences. C'est le côté syncrétique dont je parlais tout à l'heure en interview. Il y a ce cinéma de Hollywood, hein, le cinéma indien en langue tamoule, celui du sud de l'Inde. Il y a Scorsese que vous avez cité, mais on pourrait aussi parler de Wong Kar-wai. Il y a du West Side Story. Vous n'avez pas peur de faire feu de tout bois, et c'est un des grands plaisirs de ce film, Lorenz Valin.
En fait, c'est vraiment souvent quand on fait un premier film, il y a une pression autour de ça, de se dire il faut qu'on soit reconnu par la critique, reconnu par ses pairs. Et moi, je me suis dit en fait que j'allais faire ça comme si c'était mon dernier film. Et en me disant ça, ça m'a enlevé toute la pression du premier film. Je me suis dit je vais juste m'amuser et surtout je vais faire le film que j'ai envie de voir moi. On va dire que je l'ai porté depuis 8 ans et je me suis dit, s'il y a un spectateur à qui ça doit parler, c'est moi. Donc je l'ai fait vraiment de manière égoïste peut-être, et je me suis dit que sûrement des gens qui allaient, autant que moi j'en prends du plaisir, sûrement il y a d'autres personnes qui allaient en prendre en regardant ce film.
Un des plaisirs de ce film, c'est que vous n'allez pas du tout là où on pourrait attendre que vous alliez. Généralement, l'infiltré va dans les conflits de loyauté, va plus ou moins se retourner. Votre personnage n'est jamais ni programmatique ni prévisible. C'était volontaire, là aussi, j'imagine, de votre part, Lorenz Valin.
Totalement. En fait, pour moi, c'est comme si on commence, il est policier français, il va rencontrer la communauté tamoul et d'un coup, il devient à la fin le gangster tamoul de la communauté. Je trouvais ça très réducteur et très cliché en me disant qu'en fait, quand il se connecte à son identité, il doit forcément devenir un criminel. Et donc, je me suis dit, non, il va commencer policier, il va terminer policier, sauf qu'à un moment donné, il va se connecter aussi à son identité tamoul. Et c'est comment il va jongler avec son identité française et son identité tamoul. C'est là l'histoire où j'ai essayé de le tirer du début à la fin, de ce moment-là, de me dire, ce personnage-là ne va pas basculer. Il va être tiraillé tout le long, jusqu'au bout, il va être tiraillé, mais il ne choisira pas.
Ce qui est très original aussi, c'est que vous allez... contre les codes du film noir, il y a quelques scènes nocturnes, il y a ces souterrains dont vous avez parlé, comme s'il y avait un double de la ville sous terre. Mais pour un film noir, j'ai rarement vu un film aussi lumineux, diurne, coloré. C'est un vrai polar pop, Lorenz Valin.
En fait, c'est vrai que souvent quand on voit un polar, c'est souvent, on va se dire que par exemple, je vais vous prendre l'exemple de la séquence du toit qui marque pas mal de gens. En fait, souvent, ce genre de séquence, elle se fait la nuit au bord d'un lac et on jette le corps. Et je me suis dit, en fait, et si on inversait ça et qu'on se disait ça se passe en plein jour sur le toit d'immeuble aux yeux de tous, il fait beau, il y a un ciel qui est doré et on entend même les oiseaux qui chantent, et on pourrait pique-niquer sur ce toit. Et en fait, non, il se passe un truc qui nous glace le sang. Et pour moi, en fait, ça, en tant que réalisateur, quand je regarde ces séquences-là, en fait, ça me provoque des images de cinéma que j'ai jamais vues. Et donc, c'est ça qui, moi, m'intéresse en tant que metteur en scène, c'est d'un coup de me dire... ça me provoque un sentiment de jamais, voilà, de que je n'ai jamais vu auparavant, et donc ça me provoque un moment de cinéma, et c'est vers ça que j'essaie de tendre aussi tout le film, de me dire à chaque moment comment je vais créer un instant qui va marquer le spectateur.
Ce qui est très original aussi dans votre film, généralement dans les films de gangsters, il y a une éloge de la force, de la virilité du masculin. Or dans votre film, il y a tout un questionnement justement sur le masculin. Alors, il y a déjà votre personnage, il se trouve que vous n'êtes pas, on peut le dire, un grand baraqué, vous êtes un homme plutôt longiligne, mais même chez les mastocs, je pense notamment au personnage de Pouvi, c'est un personnage qui est tout en nuances, qui est très fleur bleue par moments.
En fait, ce qui était important pour moi, c'est que souvent, on voit cette communauté qui s'est construite dans une extrême violence. Et c'est vrai que de fuir un pays, d'arriver en France, de se construire toute seule comme ça, c'est violent. Et en même temps, ces gaillards, en fait, j'avais envie de montrer aussi tout l'amour qu'ils avaient qui est en eux. Et c'était ça qui était très précieux pour moi, c'était d'un coup de me dire, OK, on est dans un film de gangster, mais c'est pas que ça. C'est aussi toutes ces émotions que ces personnages ont et que j'essaie de travailler autour. Et c'est vrai que ce personnage-là, le policier infiltré, pour moi, c'est ce côté où on se dit pas, ah, c'est le policier badass. Non, justement, c'est quelqu'un qui est très rentré par rapport à tous ces hommes qui sont très durs et très forts autour de lui. Et d'un coup, on se dit à un moment donné, comment lui va réussir à se faire une place à l'intérieur de toute cette famille. Et moi, ça a été tout ce chemin-là que j'ai essayé de tisser, parce que ce qui était important pour moi, c'est que d'un coup, on voit notre personnage principal qui rentre dans cette communauté en disant « je vais infiltrer des terroristes », et en fait, il va infiltrer une famille.
Ntebine ?
Oui, moi, en tant qu'Asiatique, donc né en France, donc parlant français, et ayant été habitué pendant toute ma vie à ce qu'on me dise « ah, mais vous n'avez pas beaucoup d'accent ». Et là, je dois dire que moi, qui ai vu cette communauté s'installer dans mon quartier, au départ, personne ne parlait français, donc on leur parlait un peu en anglais. Et puis là, voir des personnages de cinéma qui sont jeunes, qui ont entre 20 et 30 ans, et qui parlent français comme dans un film parisien de banlieue, eh bien, ça me montre à quel point les années ont passé.
Laurence Valin.
Pour moi, c'était très important de montrer ça, de me dire à un moment donné... comment on ne doit pas justifier un personnage. Parce que moi, très, très vite, on m'a dit, en fait, il faut que ton personnage soit peut-être adopté pour justifier qu'il est français dans le film. Et je me suis dit, non, moi, je n'ai pas été adopté, c'est ma grand-mère qui m'a élevé, et je parle parfaitement français, donc j'avais besoin de voir des personnages comme ça qui puissent passer d'une langue à l'autre sans avoir un accent. Et c'était ça qui était important, parce que d'un coup, de me dire, c'est des personnages que moi, je vois dans la vraie vie et que j'avais besoin de ramener au cinéma.
Merci Laurence Valin. Little Jaffna, votre film est en salle depuis mercredi. Vous écoutez France Culture, Plan Large, et vous restez avec nous, Laurence Valin. Ce qu'on va écouter à présent ne vous évoquera sans doute rien, mais à toute une génération de Roumaines et de Roumains, ça devrait dire quelque chose.
Fior de tine toată viața cu tine să fii.
comme Cléo dans le film d'Agnès Varda. Mirabella chantait « Sans toi, Faratine », un des tubes roumains de l'année 1989. Elle était même, je crois, venue le chanter à la télévision roumaine pour le réveillon de cette année-là. Un an plus tard, le réveillon télévisuel n'aura pas lieu. C'est entre autres ce que raconte votre film « Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé ». Bonjour Bogdan Mureșanu.
Bonjour, bonjour. Merci beaucoup pour moi m'avoir invité ici. Oui. Pense que c'était Mirabella Dauer, non?
Oui, peut-être absolument. Absolument. Oui. Vous l'avez bien reconnu. Vous êtes au festival de Linz en Autriche où vous montrez votre film. Vous aviez 15 ans, je crois, en 1989. Comment est-ce que vous avez vécu la révolution de décembre et quelle mémoire vous en gardez encore aujourd'hui?
Ah oui, ma famille s'était tellement affectée par le communisme, alors j'étais un peu mature en observant les choses politiques et tout ça, l'atmosphère. Et je m'en souviens très bien de ces jours parce que j'étais avec ma mère et ma sœur, précisément dans la piazza, dans la place d'université, où peut-être tout a commencé. Je m'en souviens d'une certaine atmosphère pleine de tension. C'était quelque chose dans l'air. J'ai essayé de capturer, de mettre ça, cette tension dans le film. Oui, dans la mise en scène, oui. Et avec les acteurs, tout ça. Nous avons beaucoup parlé de ces jours.
Ces événements, est-ce qu'ils résonnent encore aujourd'hui dans la société roumaine? Je l'ai dit tout à l'heure, on est à la veille d'une élection présidentielle cruciale pour l'avenir du pays. C'est encore une référence ou c'est justement quelque chose qu'il faut rappeler face à un certain oubli, Bogdan Mureșanu?
Quand j'ai commencé à faire le film, c'était seulement comme un film historique. Mais maintenant, il y a quelque chose, bien sûr, qui nous parle dans la lumière des élections passées, bien sûr, qui sont des élections qui, dans deux jours, vont prendre place. Maintenant, je pense qu'il y a un autre rapport avec ce film. C'est quelque chose qui est du présent, comme j'ai dit. Parce que on peut dire que le communisme n'est pas dans le passé totalement. Il y a une espèce de mentalité, il y a une espèce de peur qui est encore dans le place. Oui.
Alors, je ne sais pas si vous êtes un amateur du cinéma de Robert Altman, Bogdan Mureșanu, mais
ça se sent
en voyant votre film, parce que c'est un film choral, vous entrecroisez six destins dedans. Vous auriez pu vous inspirer de vos souvenirs d'enfance, de l'adolescent de 15 ans que vous étiez. Pourquoi est-ce que vous avez voulu raconter ces six histoires qui se croisent l'une l'autre?
Parce que j'ai voulu faire un film un peu symphonique, un film avec beaucoup de personnages. Peut-être parce que je suis un scénariste, un écrivain, et j'ai voulu faire un scénario plus compliqué, plus complexe. Je ne sais pas, peut-être ça, peut-être parce que j'ai voulu faire une autre espèce de film, un peu plus difficile de faire. Avec des histoires multiples, beaucoup de personnages, beaucoup de locations, tout ça. Et j'ai étudié les films que je pensais que sont un peu plus similaires avec le film que j'ai fait. Il s'agit bien sûr de Robert Altman, de Shortcuts, ou peut-être de Ulrich Seidel, Dog Days. Pete Anderson avec Magnolia, oui. Magnolia, c'était la référence absolue pour mon film.
Pete Anderson, qui est lui-même un élève, un héritier de Robert Altman. Alors, ces six destins, ce sont ceux de personnes qu'on pourrait dire insignifiantes. Ce ne sont pas les gens qui sont au sommet de l'État.
Ordinaires, peut-être.
Voilà, oui, tout à fait. Qui sont des gens de tous les jours. En tout cas, ce ne sont pas des héros de la Révolution. Vous vouliez montrer que les grands mouvements politiques, ça passe du côté à la fois de l'infime et de l'intime aussi.
Oui, même Ceausescu, je pense que c'était un homme ordinaire dans ce moment-là. Mmh. Parce qu'on peut voir dans les archives qu'il ne savait exactement, il ne savait pas exactement qu'est-ce qu'il s'agissait devant lui. Il pensait que c'était un tremblement de terre ou quelque chose comme ça. Il était seulement face à l'histoire, je pense que nous sommes tous des hommes ordinaires. Et c'est le film raconte des histoires ordinaires avec des gens ordinaires, mais dans un jour qui est extraordinaire, la jour qui un autre espèce de histoire a commencé pour la Roumanie. Peut-être seulement pas pour la Roumanie, pour l'Europe, pour le continent aussi.
Oui, parce qu'il faut préciser que votre film dure 24 heures. On est la veille de la grande manifestation du 21 décembre 1989 sur la place où vous étiez et qui a fait basculer le pays. Sauf que la veille, évidemment, le 20 décembre, on était encore dans une dictature et autant nous, on sait ce qui va advenir. Et eux, non. Et donc, vous respectez totalement leur point de vue. C'est à la fois le tragique et le comique de l'histoire.
Oui, j'ai voulu faire ça, un film qui était dans une mesure tragique parce que les personnages ne savent pas la fin de l'histoire, mais nous le savons. Alors pour nous, c'est un peu, il y a un peu de nuance de comique avec toute l'absurdité du régime communiste, mais. Pour eux, pour le personnage, c'est seulement une tragédie. Mais bien sûr avec un happy ending, comme on dit.
Oui, il y aura effectivement un happy ending. Alors, vous, autant ils ne savent pas ce qui se passe, autant vous êtes un peu comme eux dans la manière de les filmer, c'est-à-dire que vous avez une caméra portée qui semble attraper les événements en même temps qu'ils arrivent. Vous faites des recadrages fréquents par des zooms, un peu comme d'ailleurs Robert Altman le faisait. Quelles étaient vos références de mise en scène? On peut penser au Dogme aussi. Il y a un moment... puisque ça se passe dans un studio de télévision, quelqu'un dit à un cadreur, arrête de secouer la caméra. On a l'impression qu'on est en train de parler à votre opérateur.
C'est bien sûr un clin d'œil pour nous, pour l'équipe qui a fait le film. Bien sûr, c'est un clin d'œil de ce moment-là. Mais oui, j'ai pris comme référence la manière de filmer la pellicule. C'est Dogma, bien sûr. C'est une manière documentaire. J'ose dire, parce que j'avais un scénario qui était tellement compliqué, tellement fort, à mon avis, que j'ai voulu le tuer un peu, si vous comprenez. J'ai voulu basculer un peu, balancer, équilibrer un peu la façon très complexe d'écriture avec une manière plus fruste, plus réelle de filmer, comme un documentaire. Et c'est pour ça que j'ai utilisé la caméra portée et les recadrages, même la lumière, c'est dans le film, l'éclairage, c'est un peu grisé, décoloré.
Alors ça se passe beaucoup dans un studio télévision pour une des histoires, certes, mais ça pose un certain nombre de questions de cinéma.
Suntem gata, mergem la GSU, Lili, te rog.
Întreaga națiune cu hotărâre.
Ia, mergem, du-te mai încolo, încolo. Mai înainte, așa, lasă, du-te mai încolo, aveam un... Ia, stai aici. Dacă găsim o actriță care să semene cu Lili. Bine, dăm la largul ăla dinainte. Așa, ăsta. Da? Asta e, o rămâne Lili. Aceeași bucată de decor filmăm. Așa. Și pe urmă dă. Și ăsta e cu actrița nouă. Mă înțelegi? Și în felul ăsta nici nu o scoatem pe Lili, nici nu rămâne de tot.
Tu ce zici, merge?
Am mai făcut noi cârpel de-astea când era materialul prost.
Păi mai întâi dracu.
Stai că am înțeles. Deci aia largă, asta strâns și combinăm asta. Facem așa?
Da.
Zic că da.
Ia, mă duc să-mi zic. Și trebuie să-i găsim o dublură. Pizda, moitié Lili.
On est dans un bureau de la télévision d'État roumaine. Les équipes ont fait leur devoir. Ils ont tourné consciencieusement et à l'avance le très lénifiant programme de Nouvel An avec le passage obligé des vœux au cher conducteur Nicolae Ceaușescu. Sauf que la vedette qui s'y était collée a depuis rejoint l'Ouest, qu'elle a dit tout le bien qu'elle pensait du régime sur Radio Free Europe et qu'il faut donc trouver des solutions pour la remplacer. Et malheureusement pour les équipes techniques, on est bien avant l'intelligence artificielle qui aurait réglé ça en un tour de main. On parle donc plan large et gros plan, on parle solution de montage, soit des questions de cinéma, même à la télévision, c'est un peu comment est-ce que le cinéma pourrait écrire l'histoire, Ntebin.
Oui, bah, c'est-à-dire que nous, avec le nouveau cinéma roumain, d'il y a quelques années, entre 10 et 15 ans, on avait pris l'habitude d'un certain minimalisme. Hein, je pense notamment au premier film de Corneliu Porumbuyu, qui a à peu près le même âge que Bogdan. Et ici, c'est une animiste. Il y a à la fois ce côté documentaire, mais en même temps, une volonté de jouer avec l'outil, avec le jouet cinéma. Cette structure chorale, justement, qui intègre d'ailleurs un court-métrage formidable qui avait été primé à Clermont-Ferrand il y a 7 ou 8 ans.
Le cadeau de Noël.
Le cadeau de Noël, qui est l'histoire d'un petit garçon qui écrit une lettre au Père Noël. Et s'est intégré dans un nouveau tournage et avec des nouveaux personnages. Ce conte de Noël paranoïaque devient le portrait de toute une société. Et en même temps, c'est un film à suspense. Et Fred Zinman, quand il avait fait Le jour du chacal, qui est l'histoire d'un attentat sur le général de Gaulle, disait « Mais tout le monde connaît la fin du film puisque le général de Gaulle ne sera pas assassiné à la fin. » Et ici, c'est l'inverse. Tout le monde connaît la fin du film, avec l'issue opposée, mais tout est dans le comment. C'est une sorte de mini-suspense constant qui passe aussi par des épisodes franchement comiques. Il y a l'une des plus drôles parmi les répliques que j'ai entendues cette année. Je ne vais pas vous la dire, mais je vais vous dire la réplique qui précède. La réplique qui précède, c'est « L'art réclame des sacrifices ». Et je vous laisse découvrir la réplique la plus drôle qui suit dans le film « Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé ».
On entend aussi Bogdan Moreșanu.
Oui, j'éclate de rire.
On entend aussi une personne sur 10 est un agent secret, une sur 4 un mouchard et une sur 2 boit trop en Roumanie. Mais vous vouliez montrer aussi comment toute la population, qu'elle le veuille ou non, est prise dans les raies du régime et dans la paranoïa dont parlait Ntebin.
Oui, et même maintenant, je pense que c'est la même chose. Même maintenant, la peur, c'est quelque chose que c'est très difficile de extinguish. Je m'en souviens pas.
De la supprimer, de l'éteindre, oui.
Oui, oui. Et maintenant, même maintenant, on peut voir que comme la paranoïa fonctionne, pas seulement dans la Roumanie, non, c'est partout l'Europe, partout le monde, on peut voir ça, que c'est comme une peste. Et j'ai voulu bien sûr montrer ça dans mon film, montrer que moi je pense quand même que la peur, c'est un personnage aussi. Dans le film. Et combattre la peur, on peut faire ça seulement avec les moyens de la blague, du rire. Oui, c'est seulement comme ça qu'on peut faire, qu'on peut vaincre la peur.
Alors, Ntebin mentionnait notamment le cinéma de Corneliu Porumbuyu. On pense évidemment à ce film de 2006 qui s'appelait 12h08 à l'est de Bucarest, où il y avait déjà une émission de télévision. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a même des acteurs de ce film qui se retrouvent dans le vôtre. Cette émission de télé personne ne regardera, c'est vraiment un clin d'œil à son film, Bogdan Moreșanu.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'était un clin d'œil à son film. C'est un de l'acteur, des acteurs de Corneliu Porumbuyu. Il s'agit de Ion Săbdaru. Il est le directeur de la télévision dans mon film. Et c'était comme un hommage, on peut dire. Même le film que j'ai fait, je pense que le axis central du film, c'est la émission qui a été enregistré en 1989 et qui n'a jamais été télévisé. Et c'est pour ça que le titre est « Le nouvel an qui n'a jamais arrivé ». C'est ça.
Et d'ailleurs, le titre.
L'explication.
Le titre original du film de Corneliu Porumbulo s'appelait pas 12h08 à l'Est de Bucarest, ça c'est le titre français, il s'appelait Cela a-t-il eu lieu ou non? Et c'est une façon, dans son film comme dans le vôtre, de dire que y a un PN, mais la révolution n'a jamais vraiment eu lieu, puisque on le sait maintenant, ce sont des membres du régime qui se sont retrouvés immédiatement au pouvoir autour de Ion Iliescu.
Oui, mais je pense que c'est. Je ne suis pas tellement dur que Corneliu. Je pense qu'il y a été un retard de 10 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Mais la révolution a vraiment commencé dans décembre 21. Mais bien sûr, qu'elle a été un peu volée, on peut dire, par les. Ion Iliescu et sa clique. Mais oui. Mais je pense qu'elle a été une révolution. Elle a commencé quand même comme une révolution et peut-être ça a été développé dans une espèce de réforme du parti communiste.
Votre film joue d'ailleurs beaucoup sur des ambiguïtés, c'est un peu un cinéma de l'être ou ne pas être, de l'être et ne pas être en même temps. On a toujours l'impression que tout peut avoir une double signification, un double sens, il est à la fois comique et tragique, mais pas seulement Bogdan Mureșanu.
J'espère que c'est comme ça, j'espère qu'il y a des nuances, mais je ne suis pas sûr que c'est comme vous disiez. J'ai voulu faire un mélange entre la fiction et la réalité historique, les archives. Oui.
Oui, parce que vous insérez beaucoup d'images d'archives, notamment celle de Ceaușescu, qui a l'air complètement déphasée et pathétique quand on le regarde aujourd'hui. Or, à l'époque, c'est plutôt un homme inquiétant, terrifiant. Vous jouez là encore sur ces deux registres.
Oui, parce que j'ai vu Ceaușescu qui était, comme vous avez dit, il était complètement débranché de la réalité. Il ne savait exactement qu'est-ce qu'il s'agissait dans cette place, dans la place d'université où toute la révolution a éclaté. Je pense que nous sommes très heureux d'avoir cette archive avec Ceaușescu. Parce qu'il il est un moment très important, pas seulement pour la Roumanie, mais pour l'histoire du communisme de notre continent. Je pense que c'est un moment qu'on peut voir comme dans 3-5 minutes un homme, un idole, un homme très puissant est devenu seulement un homme qui ne savait rien du tout de ce qui s'est passé. Un homme ordinaire, si vous voulez.
Merci Bogdan Mureșanu. Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé est bien arrivé, lui, dans les salles françaises, et ce depuis mercredi. Merci aussi à Andrușca Ciuțca pour ses tuyaux sur les tubes roumains. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on ouvre, comme chaque samedi, le journal du cinéma avec quelques-uns des films sortis cette semaine, très anglo-saxons, mais pas que.
Do you know this play, Romeo and Juliet?
It's a tragedy.
It's been difficult, but I just want my family back.
I wanted to know what it felt like to be wrapped, to be shrouded. Maybe not meant for the dead either. Maybe a big mistake.
The vandalism, it's gotten to you.
So the thing about poker is, cards aren't just cards.
You can't know what's already been dealt.
Well, most certainly is frowned upon, but that doesn't mean you can't know.
Oh, please! No! Please! I'm not going in there!
I am not going! Daddy!
Do you have a question, Lisa?
There are things you have to ignore.
Margot, pour tout le monde, on est à 5 minutes du feu. J'espère que tout le monde est en place.
On va au cinéma?
Non.
Bah, il n'y a pas de film.
Comment il n'y a pas de film?
Qu'est-ce qu'il y a comme film?
Le Cléo de 5 à 7.
Ça, c'est bien, je vais aller le voir.
Et Marianne Bad.
Marianne Bad, ah non, ça. Okay. Ça me fait trop mal, vous savez, monsieur, moi, je suis qu'un primaire. Je m'excuse.
Sur vos écrans, depuis ce mercredi, la thérapie sauvage d'un ouvrier municipal de Chicago en deuil via la pratique du théâtre amateur et Roméo et Juliette en particulier. C'est rien trop psychologisant peut-être. Ghostlight des très indie réalisateurs américains Kelly O'Sullivan et Alex Thompson, qui vaut surtout pour ses merveilleux acteurs, des visages tout à fait nouveaux dans le cinéma américain, et le bonheur de revoir la toujours excellente Dolly de Leon. Deuil toujours, un amour qui va au-delà de la mort jusqu'à la contemplation de la décomposition du corps de l'être aimé. C'est Les Linceuls, le dernier dispositif scopique du vétéran canadien David Cronenberg, où à la dimension nécrophile de son cinéma se substitue au final celle purement érotique de la parole, sous la forme de très paranoïaque théorie du complot. C'est aussi beau que dérangeant. Plus convenu dans sa forme très académique, mais tout aussi audacieux dans son propos, surtout dans la très normative Amérique désormais trumpienne, un éloge des amours queer dans les conservatrices des années 50. Ce sont Les Indomptés, première incursion sur grand écran de Daniel Minahan, qu'on connaissait comme réalisateur d'épisodes de Six Feet Under, Game of Thrones et autres House of Cards, avec les très glamour Daisy Edgar-Jones et Jacob Elordi. Les quatre consciences d'un charbonnier face aux abus d'une institution religieuse vouée à la rééducation, comme on disait alors, de filles-mères dans l'Irlande du début des années 80, c'est le malheureusement assez pesant Tu ne mentiras point de Tim Millens, qu'on réservera aux fans de son acteur principal, Cillian Murphy. Un spectacle pyrotechnique dans la forêt landaise, documenté pour son premier film par une cinéaste formée aux Beaux-Arts, c'est Un pays en flammes de Mona Convert, simple et beau, comme l'apparition d'une lumière dans la nuit. Et puis enfin, Un printemps parisien, où on peut voir en salle le Cléo de 5 à 7 d'Agnès Varda et l'année dernière à Marianne Bad d'Alain René, mais où on se garde bien d'évoquer la guerre d'Algérie qui vient de se terminer, le grand non-dit et point aveugle de ce film de 1962, c'est le Joli Mai, première et très belle expérience de cinéma direct de Chris Marker et de son opérateur Pierre Lhomme, de retour en salle et en DVD, et Blu-ray chez Potemkin en version restaurée. Puisque je viens de mentionner Agnès Varda, qui s'en était fait une spécialité et avait inventé le terme, la 10e édition du festival de films documentaires On vous ment se tiendra du 6 au 11 mai à Lyon et Villeurbanne. Beaucoup plus vieux, le festival Confrontation de l'Institut Jean Vigo fête lui sa 60e édition à la Cinémathèque de Perpignan, c'est jusqu'au 6 mai, sous le thème cette année du cinéma animal, avec demain une table ronde sur la représentation du monde animal à l'écran. Nous avions d'ailleurs consacré un plan large entier à cette question. C'était le 2 mars 2019 avec Camille Brunel. Et puis enfin, dans une autre cinémathèque, celle de Grenoble, c'est Grosse Pagaille, vendredi et samedi prochain, avec notamment une projection en plein air, ça ravira Entebbe, du All About Eve de Joseph L. Mankiewicz. C'est aussi celle d'un film rarissime qui sera projeté en 16 mm, celui que Raoul Ruiz avait tourné pendant une résidence sur place en 1984. Ça s'appelle Régime sans pain. Ceci annoncé, on file à New York en se demandant ce qu'on va bien pouvoir y faire ce soir.
The Jets are gonna have the day tonight.
The Jets are gonna have their way tonight. The Puerto Ricans grumble, fair fight. But if they start a rumble, we'll rumble them right. We're gonna hand them a surprise tonight. We're gonna cut them down to size tonight. We said okay, no rumpus, no tricks. But just in case they jump us, we're ready to mix tonight. We're gonna rock it tonight. We're gonna jazz it up and have us a ball. They're gonna get it tonight. The more they turn it on, the harder they fall. Well, they began it. Well, they began it. And we're the ones to stop them once and for all tonight.
Anita's gonna get her kicks tonight. We'll have our private little mix tonight. He'll walk in hot and tired, poor dear. Don't matter if he's tired, as long as he's here tonight.
Toute la troupe de West Side Story rassemblée pour chanter le Tonight de Leonard Bernstein. C'était filmé 60 ans avant Steven Spielberg par Robert Wise, qui fait l'objet jusqu'à la fin du mois d'une rétrospective à la Cinémathèque française. L'occasion une fois encore de contempler le très déroutant éclectisme du cinéaste hollywoodien qui, après avoir monté Citizen Kane et La Splendeur des Ambersons pour Orson Welles, c'est déjà pas mal, a commencé sa carrière de réalisateur avec des films d'horreur, La Malédiction des Hommes-Chats, qui était la suite de La Féline, ou Le Récupérateur de Cadavres avec Boris Karloff, un genre dans lequel il continuera à s'illustrer encore plus tard avec par exemple La Maison du Diable, avant de faire œuvre aussi bien dans le film de guerre comme La Canonnière du Yangtze, dans la comédie musicale, rien moins que ce West Side Story qu'on entend, mais aussi La Mélodie du Bonheur, mais aussi et encore des films de science-fiction, des westerns, des films noirs, des péplums et des mélodrames, bref, tous les genres hollywoodiens à lui tout seul, d'où cette éternel débat à laquelle vous aurez peut-être enfin une réponse, N.T. Bean, Robert Wise, brillant mais impersonnel technicien ou véritable auteur, voilà la question.
Peut-être les deux ou ni l'un ni l'autre, en tout cas un grand cinéaste. Et c'est ce qu'on se dit en revoyant ses films aujourd'hui. Alors, le paradoxe, c'est que par exemple, Howard Hawks a toujours été considéré comme un grand auteur du cinéma américain. Mais d'abord, Hawks, il a commencé bien avant. Il a commencé à faire des films muets. Wise, il commence plus tard. Il commence comme monteur, vous l'avez dit, dans les années 1940. Hollywood est en pleine mutation. Et Robert Wise, finalement, c'est un pont entre le Hollywood classique et le Hollywood moderne. C'est quelqu'un qui a une fibre, par exemple, sociale, qui va mettre en œuvre, sans jamais faire de film militant ou vraiment engagé au sens sermonneur du terme, mais qui aura toujours la préoccupation de montrer les antagonismes sociaux dans ses films, les antagonismes de sexe entre hommes et femmes, par exemple, ou entre enfants et parents, entre civilisations. Et c'est un cinéaste vraiment progressiste, et également, il arrive à une phase dans l'histoire de Hollywood où la télévision menace, où il faut surenchérir dans le spectacle et le spectaculaire. Il va devenir, pour cela, producteur, en emmagasinant toute l'expérience qu'il a acquise, en étant d'abord monteur, puis réalisateur de série B, mais très inventive, puis de films de genre de manière tout à fait éclectique, comme vous l'avez dit. Et ce qui est intéressant quand on regarde ces films, c'est déjà, c'est plus que du savoir-faire, c'est du grand art dans la manière d'utiliser les moyens du cinéma, c'est-à-dire aussi bien un grand sens de la composition visuelle. C'est-à-dire que, par exemple, dans La Maison du Diable, qui est un film de terreur, eh bien, c'est la caméra et la façon dont le Wise filme la maison elle-même qui est responsable de la peur que ressent le spectateur. De la même manière, au début de West Side Story ou de La Mélodie du Bonheur, c'est la caméra aérienne sur un hélicoptère. Il a été le premier à mettre une grande caméra, une grosse caméra professionnelle sur un hélicoptère qui va nous immerger dans un monde soit féerique, tragique pour West Side Story, soit féerique, plus souriant, mais avec arrière-fond quand même de nazisme dans La Mélodie du Bonheur. Et ce qui est rafraîchissant également, c'est que très souvent, il a sur ses histoires sur ces histoires de confrontation, parfois virile, sur les enjeux de la société américaine. Il a souvent le regard d'un enfant ou le regard d'un personnage féminin qui est peut-être sur la voie d'une émancipation, peut-être pas. Il a réalisé sans doute le plus grand film de fiction contre la peine de mort, Je veux vivre, avec Susan Hayward. Voilà, c'est quelqu'un qui a cultivé les paradoxes, qui a franchement explosé au plan commercial comme professionnel dans les années 1960 en étant à la fois producteur, initiateur et réalisateur très admiré de super productions comme les comédies musicales ou comme La Canonnière du Yangtze. Il excelle aussi dans le film de guerre, qui est parce que la guerre révèle en fait ce qu'il y a dans les personnages humains, ce qu'il y a de meilleur et de pire. Et Robert Wise, c'est ça, c'est qu'il nous montre le pire et le meilleur. Il va faire par exemple l'un des parangons du film de Hold Up, qui sera l'un des films préférés de Jean-Pierre Melville, Le coup de l'escalier, Odds Against Tomorrow, mais qui est aussi un plaidoyer antiraciste. Voilà, il y a toujours deux faces très intéressantes dans le cinéma, à la fois grand public, commercial, plein de stars, les plus grandes stars de Hollywood, et responsable de Robert Wise, qui a, ne l'oublions pas, co-réalisé et demandé à co-réaliser West Side Story avec le chorégraphe et metteur en scène de la pièce, Jerome Robbins, qui, effectivement, pour des raisons X ou Y, sera à un moment donné licencié par les investisseurs du film. Mais c'est quand même la seule fois qu'un metteur en scène d'un film unique aura l'Oscar du meilleur réalisateur à Hollywood.
On entend là, Entebbe.
On entend la musique de Bernard Herrmann pour Le jour où la Terre s'arrêta, avec ses thérémines extraordinaires. Un film sur la guerre froide, en fait, mais qui est aussi l'un des classiques de la science-fiction, avec la fameuse phrase « Klaatu Barada Nikto », qui est devenue une phrase fétiche de tous les amateurs de science-fiction et de parodies de science-fiction.
Merci Entebbe, la rétrospective Robert Wise à la Cinémathèque française, c'est jusqu'au 26 mai. Pour en savoir plus, on vous recommande le dossier consacré au cinéaste dans le positif du mois de mars, et on en profite pour signaler le nouveau numéro de la revue avec Virginie Efira en couverture et en grand entretien, et un volumineux dossier sur l'exploitation cinématographique. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui, à la prise de son Ruben Carmazine. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.